Salut les amis, c'est François au micro pour un nouvel épisode de Fifi on the Rock, le meilleur du hard et du rock, pour la quinzaine d'années bénies 1968-1983. C'est le printemps, la sève monte dans toutes les tiges, on vire les grosses doudounes et on a envie d'écouter de la bonne musique. Du hard, du vrai, qui prend son essor à partir de 1968 avec l'explosion du British Blues Boom et l'arrivée concomitante du rock psychédélique. Comme tous les arts, la musique n'échappe pas à cette règle. Le public encense peu d'artistes, et pour nous donc peu de groupes. On pense à Led Zepp, Black Sabbath ou Deep Purple, mais on met foule de bandes géniales dont la créativité est au moins égale à ses mastodontes. Les Found, Granicus, que vous connaissez désormais, font partie de ceux-là. Je vous les propose assez régulièrement et je pense encore à CWT, Fanny Adams ou Blues Creation. C'est exactement comme en littérature où pour un Jack Kerouac que tout le monde connaît, il y a des contingents entiers de génies méconnus. En ce qui nous concerne, Yesterday's Children, qui sont américains, font partie de ces artistes sous-estimés. C'est un groupe très éphémère du Connecticut qui enregistre en 69 chez le label obscur Map City et qui sera très fugace avec un seul 33 tours du même nom. Yesterday's Children est pourtant considéré aujourd'hui comme l'un des groupes phares de l'émergence du hard. Ils produisent un son puissant, une synthèse de blues, de garage et de psyché. Ils se revendiquent comme un gang de rockers prêts à en découdre avec la société. Ils ne rencontreront malheureusement jamais le succès, mais demeurent pour toujours à la racine du hard rock primitif. Les apprentis sorciers de ce nouveau style, Yesterday's Children, en 69, avec Sad Born Loser. Toujours aux États-Unis, cette même année de 69, se forme à Fort Worth, au Texas, le groupe Blood Rock. Ils ont tout de suite la chance d'être produits par Terry Knight, qui préside aux destinées de Grand Funk Railroad et qui leur offre un bon soutien marketing. Ça leur permet d'aller enregistrer de 70 à 74 pour 7 LP, tous très bons. Blood Rock produit un rock sans concession, bien soutenu par la voix agressive de Jim Rutledge et la guitare incisive de Lee Pickens. La présence d'un orgue les a souvent fait comparer à Deep Purple. On en est pourtant loin dans un acid rock qui flirte avec le Southern Rock. Leur premier album, Blood Rock, est à mon avis le meilleur des sept et aujourd'hui présenté par la critique comme l'un des plus importants de l'époque. Le public, lui, leur préférera dans le même style Steppenwolf ou le Blue Oyster Cult. Restons sur Blood Rock en 1970 avec un thème issu de leur premier 33, Double Cross.
You're gonna be dead. Don't try to run, there ain't no place to hide, 'cause I got justice on my side. Not a double cross. Think it's time you lost. You deserve everything you just told you he never been said. Well, can you see or will you never know? Or are you moving way too slow? Not a double cross. Think it's time you lost. You deserve everything you on my side. Not a double cross. Think it's time you lost. You deserve everything you get. Shots up. Got to get it. Well, nah, nah, nah. Well, what you think's my head? Well, I just told you
ain't never been sick. Well, can't you see, or will you never know? Are you moving way too slow? Got a double cross, think it's time you lost. You deserve everything you get.
Faisons d'ores et déjà une pause après le déluge de décibels de Yesterday's Children et de Blood Rock pour aborder notre séquence mensuelle du soft rock. Je me suis tourné ce mois-ci vers l'un des créateurs du hard, Jeff Beck. Vous vous souvenez qu'il a quasiment inventé le style avec son groupe de 68 dans lequel officie au chant Rod Stewart et à la basse le futur Rolling Stones Ron Wood. Mais Jeff Beck est bien trop créatif pour ne jouer que du blues et du hard et il veut se frotter à tout. En octobre 1974, il entre en studio à Londres pour aborder le fusion jazz. Le résultat de sa création est l'album Blow by Blow, qui sort en mars 1975, avec notamment la reprise de deux thèmes de Stevie Wonder et du She's a Woman des Beatles. C'est d'ailleurs l'emblématique George Martin, qui a accompagné les Beatles de 62 à 70, qui produit cette œuvre. À l'arrivée, un disque jazzy, funk, qui, loin de dérouter le public, est un succès retentissant, surtout outre-Atlantique, aux États-Unis comme au Canada. Séquence soft rock de 15, 1975, Jeff Beck et sa Gibson Les Paul pour cette reprise de Stevie Wonder, 'Cause We've Ended as Lovers. Notre live du mois à présent, on va aller vers certainement ce qui est l'un des meilleurs albums enregistrés sur scène de notre période 68-83. Nous sommes à New York en 71, dans la mythique salle du Fillmore East, créée par le non moins légendaire Bill Graham. Une histoire incroyable. Bill Graham, grand promoteur de la scène rock, a, au sens propre, un destin extraordinaire. Il est issu d'une famille de juifs russes émigrés à Berlin, où il naît en 1931. Pour la sécurité de son enfant, sa mère le place dans un orphelinat dans cette même ville. À la fin des années 30, ces pauvres gosses sont extraits d'Allemagne pour rejoindre la France en catimini. Puis, sous l'occupation en France, il fait partie de ce petit millier d'enfants qui échappe à la déportation et est exfiltré par des justes vers les États-Unis. Bref, un miracle. Graham se lance d'abord dans la production de théâtre au Atlantique, puis prend le courant du rock. Il fonde le Fillmore à San Francisco au milieu des 60s, puis crée son pendant new-yorkais quelques années après. Ses hôtes au Fillmore East et West, Grateful Dead, Jefferson Airplane ou encore Janis Joplin. Et le formidable groupe anglais du guitariste Peter Frampton et du chanteur Steve Marriott, Humble Pie. Humble Pie, je les place quant à moi dans le top 5 des meilleures bandes de rock de toute l'histoire. On les entend live au Fillmore East de New York en 71. C'est le concert du mois, Humble Pie, I'm Ready. This one's one coming up is a long one, so are you. Vous le savez, tous les mois, je vous propose un hymne du rock, morceau mythique entré dans l'histoire. Aujourd'hui, je suis allé récupérer un thème vintage enregistré pour la première fois en décembre 57 par son créateur Chuck Berry. Ce titre sort initialement en single en janvier 58 et fait un tube directement. C'est la chanson de Chuck Berry qui se vendra le mieux juste après My Ding-a-Ling, sortie elle en 72. Rolling Stones la classe au rang 272 des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Elle sera reprise par tous les grands, les Beatles, les Animals, Jerry Lee Lewis, Lennon en solo en 75 et des dizaines d'autres. J'ai un faible pour la reprise, classique sans fioriture, par Ten Years After. Un groupe qui a excellé sur scène, notamment à Woodstock en 69. En 70, ils sortent un live, What, chez Deram, dont j'extrais notre hymne mensuel, Sweet Little Sixteen de Chuck Berry, repris par Ten Years After. Et tiens, ça nous fait un second live, puisque le thème est capté le 29 août 1970, lors du festival de l'île de Wight.
We'll come again if you have this. Love, 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 it's
little sixteen. Well, she's gonna hell. Bad happy man.
Une bizarrerie à présent, un ovni musical. Il nous vient du bluesman historique du Mississippi, Muddy Waters. Pour mémoire, il est tellement influent dans l'histoire du blues de Chicago et du rock que les Stones ont créé leur nom d'après la chanson de Waters, Rolling Stone, au singulier. En 1968, Muddy a 55 ans et il note le succès des groupes émergents comme Led Zepp, qui s'inspire de lui pour Wallow Love, Dendrix et autres Jeff Beck. Alors il se met à écrire un album concept où il se positionne en star du rock psychédélique. Il crée une fusion entre le hard naissant et l'électrique blues. C'est une pure expérimentation avec le soutien d'un groupe américain de soul psyché, les Rotary Connection. Muddy Waters intègre dans ce disque la distorsion et use de pédales wah-wah. En quelques semaines, il vend 150 000 exemplaires d'Electric Mud, intègre enfin le Billboard où, comme bluesman, il n'était jamais parvenu à entrer. Il fait un tabac surtout en Angleterre où la jeunesse, moins conformiste que celle des États-Unis, plus excentrique, le reçoit avec enthousiasme. Je suis presque sûr que vous ne connaissez pas cet album. Quand un bluesman, Muddy Waters se prend pour un rocker psyché, 1968, c'est « I just want to make love to you ».
Slave. I don't want you to work all day. I don't want you sad and blue. I just want to make love to you. Love to you. I don't want you to wash my clothes. I don't want you to keep me home. I don't want your money too. I just want to make love to you. Love to you. Love to you. I'll make love to you. And walk. I can see by the way you baby talk. I can know by the way you treat your man that I can love you, babe, until the crying shame. I don't want you to cook my bread. I don't want you to make my bed. Want to make love to you. I'll make love to you. I'll make love to you. Yes, I want to make love to you. I'll make love to you. Hey, let me make love to you. I'll make love to you. Hey, I want to hold you in my arms. I'll make love to you. I'll make love to you. Thank you.
Notre moment de rock sudiste à présent, un groupe archétype joue ce hard à plusieurs guitares, ce boogie très roots, qui fleurbont la campagne du sud des États-Unis. Ce sont les Bad Boys de Jacksonville, Floride, Molly Hatchett. La hache de Molly, mot à mot, selon cette femme qui, à Salem, au XVIIe siècle, décapitait ses amants après la commission de l'acte de chair. Molly Hatchett, c'est 13 albums entre 1978 et 2003, un son heavy, 3 guitares donc, et un hard boogie redoutable. J'extrais de l'album de 1979, leur second, Flirting with Disaster, l'excellent boogie, Boogie No More.
Matter with
Vous êtes sur Radio MDM, sur le 101.1 sur Mont-de-Marsan et sa proximité, et c'est François au micro pour 15 on the Rock, le meilleur du art et du rock pour la période 68-83. On revient sur un son des plus classiques pour retrouver au Royaume-Uni les très jeunes musiciens Def Leppard. Ils sont de Sheffield en Angleterre et nous sommes au tout début des années 80. Après le succès de leur premier LP, en Through the Night, enregistré en 79 mais sorti l'année d'après, Def Leppard fait ensuite appel au producteur d'AC/DC Robert Mutt Lang pour un son plus carré et plus boogie. Alors c'est très évident dès les premières notes de l'album High and Dry, publié lui en 1981, dans lequel la rythmique et les riffs de guitare sont très inspirés des Australiens d'AC/DC. Jugez-en vous-même sur le thème d'ouverture Let It Go. Nous sommes donc en 1981, nous écoutons Def Leppard, des quasi-ados plutôt doués pour le hard. Et pour clôturer cette heure partagée, notre séquence des pépites oubliées, ou comment devenir des losers quand on a tout pour réussir. Souvent d'ailleurs, malgré le talent, un flagrant manque de chance tout bonnement. C'est le cas des Anglais basés à Preston, Little Free Rock, un trio hard très influencé par Cream, composé d'un guitariste-chanteur, d'un chanteur également qui joue lui de la basse et d'un batteur. Il s'appelle d'abord Purple Haze et signe chez Transatlantic pour sortir un LP fin 69. Ils deviennent ensuite les Little Free Rock et malgré quelques années de scène début 70s, ils ne parviennent pas à séduire un nouveau producteur pour enregistrer à nouveau. Ils restent donc le groupe éphémère d'un seul disque, intitulé comme eux Little Free Rock, avec, entre autres, un excellent thème, Dream, 4 minutes de hard primitif sur lequel on se quitte. Voilà, 15 on the Rock, c'est terminé pour aujourd'hui. Arnaud Mora était à la réalisation de l'émission, je le remercie. Restez fidèles à 15, ça vous évitera d'avoir à choisir entre Pomme et Juliette Armanet. Salut les amis. Again.